Dalet Amoud Bet, tout en haut. Tana, deuxième ligne. Vous y êtes, c'est bon, tout le monde a à peu près une feuille. On y va. Tana, on nous enseigne dans une braïta. Hearel, Vehatame, Peturim, Minareia. On nous dit que l'incirconcis et l'impur sont dispensés de la mitzvah de Reïa, d'aller au Beth Amikdash pendant les trois fêtes de pèlerinage. La question qui se pose là, avant d'avoir la suite, c'est qui cet incirconcis ? Qui est cet incirconcis ? Si tu me dis que c'est un goy, parce que souvent les goyim, vous savez, dans la Torah, on les appelle, pas dans la Torah, dans le langage des Rahamim, on les appelle les incirconcis. Si tu me dis que c'est un goy, c'est évident. Donc j'ai pas besoin de dire que c'est ça. D'accord, un goy, il n'est pas concerné par la mitzvah, par la moindre mitzvah, d'accord ? Donc du coup, il ne vient pas au Beth Amikdash, c'est sûr.
Mais c'est Razak.
Donc c'est qui ce Harel ? C'est qui cet incirconcis ? C'est un juif ? Bien. Mais c'est quoi ce juif-là ? Pourquoi il est incirconcis ?
Déjà né circoncis, non ? Ce ne serait pas considéré...
Non.
Jamais circoncis adulte ou on parle de...
Bon, on parle pas des enfants. Non, on parle pas des enfants, forcément. On parle ici des adultes. Parce qu'il faut que tu aies un riouf de venir au Beth Amikdash.
C'est celui qu'on a converti, mais qu'on n'a pas circoncis ?
Non, parce que sinon, il n'est pas encore converti. Puisqu'on sait qu'il y a les deux étapes pour la conversion nécessaire.
C'est pas celui dont on avait dit que... On avait donné un exemple.
De quoi ? Celui qui est moitié-moitié, là ? Ouais. Non. C'est qui cet incirconcis ?
C'est une image, c'est un circoncis d'ailleurs, de la bouche ou autre chose.
Alors regardez Rashi. Rashi est beaucoup plus terre à terre. Regardez Rashi. Dans votre colonne de gauche, juste aux lignes courtes, en haut. Harel, vous l'avez ? Il nous dit Israël, c'est bien évidemment un juif, parce que sinon la question ne se pose même pas. Bien évidemment que c'est un juif. Israël, alors pourquoi il est incirconcis ? Shemetu Echav, Mechamat Mila. Et là, c'est un truc incroyable de notre Rashi. Il nous dit en réalité, c'est un juif. Et pourquoi il n'est pas circoncis ? C'est un rachat. Si c'est un rachat, il n'a pas envie d'aller au Beth Amikdash, un rachat. De toute façon, ce n'est même pas une question. D'accord ? C'est un mécréant, c'est un renégat, il a tout rejeté, même pas la circoncision. D'accord ? Alors peut-être que lui, il est même pas. Il s'en fout, quoi. D'accord ? Ça ne sert à rien de dire que lui, il est dispensé de venir au Beth Amikdash. Il ne fait même pas sa Brit Mila. Rashi nous dit, c'est pas ça. C'est un juif religieux. Et pourquoi il est dispensé ? Parce que ses frères sont morts à cause de la Brit Mila. Et du coup, lui aussi est dispensé de faire la Brit Mila. Parce que je vous rappelle que d'après la halakha, c'est la halakha dans Shulchan Aruch, la Shulchan Aruch nous dit, si lo alenu, il y a dans une famille deux garçons qui naissent, pas à la même date, ils naissent, et qu'on leur fait la Brit Mila. Au premier, il meurt à cause de la Brit Mila. D'accord, problème de sang, problème de cicatrisation, etc. Il meurt. Le deuxième, on lui fait la Brit Mila, il meurt. La halakha nous dit, quand il y a un troisième qui arrive, on ne lui fait pas. Il est dispensé d'un mitzvah.
Un peu comme le hiboum. On fait deux essais, après en troisième, on... Non ?
Non.
Non, non ? Je sais pas. Donc avec Yehuda, Yehuda avec...
Ah non, ça c'est encore autre chose. Ok, ça c'est encore autre chose. Ça c'est la femme katlanite, la femme meurtrière. Mais ça c'est un autre sujet.
Pourquoi on ne cite pas cela dans la Mishnah ? Il sort d'où maintenant cela ?
Ah, ça c'est une braïta. Alors ça c'est une braïta. Ça c'est pas plus gênant que ça. Hein ? Parce que la question est de dire, ah, bah, attends, mais pourquoi ils n'étaient pas dans la liste première, cela, la liste de la Mishnah ? C'est pas plus embêtant que ça. C'est assez fréquent que la Mishnah, de toute façon, ne donne pas tous les cas de figure et que les Braïtot, elles donnent d'autres enseignements qui ne sont pas nécessairement dans la Braïta, dans la Mishnah, d'accord ? Et que, bon, il faut tout connaître en même temps pour connaître les Halakhot. Ça, c'est pas plus embêtant que ça. Donc, pour revenir sur le cas du Harel, c'est un homme juif religieux, pratiquant, mais du coup, s'il n'a pas fait sa Brit Mila, c'est pas un reproche qu'on lui fait à lui, parce qu'il n'était pas censé la faire, sa Brit Mila. C'est normal qu'il la fasse pas, c'est la halakha. D'accord ? C'est ce qu'on appelle une sorte de chazaka. La chazaka, c'est quoi ? C'est qu'on considère que ces enfants-là, ils meurent à cause de la Brit Mila.
C'est une dispense ou c'est une obligation pour les parents de ne pas circoncire leur
fils ? C'est une interdiction pour les parents de circoncire leur fils dans ce cas-là. Parce que c'est piquoir nefesh. Normalement, une chazaka, et regardez la chazaka ici. De quoi ? Rien. Rien. D'après la halakha, rien. Tu ne prends même pas le risque.
Une chazaka,
et chazak ? Là, la chazaka te dit, enfin les commentaires là-bas, te disent, attends, mais une chazaka, c'est trois. Une chazaka, c'est pas deux. Sauf quand c'est un cas de mort. Quand c'est la mort, on rigole pas.
On prend pas le risque.
On prend pas le risque. D'accord, ça veut dire que ce petit-là, hein, enfin la famille, il y a un problème de sang. D'accord, il y a un problème de coagulation. Donc du coup, on laisse tomber.
Alors on le considérerait pas.
Ah, chazaka ! Comment il s'appelle ce monsieur-là ? qui est religieux, qui fait toutes les mitzvot. Il n'a pas fait sa brit mila, mais parce qu'il ne peut pas.
Est-ce qu'il n'est pas tôt refait d'autres mitzvot?
C'est incroyable. Non, a priori, non. Il est dispensé de la mitzvah de Reiya.
Il y a eu des cas dans
oui, forcément. Ah, forcément, c'est sûr, c'est le Shulchan Aruch.
De nos jours, je parle.
Ah, non, aujourd'hui, à mon avis, aujourd'hui, on a les moyens, il faudrait voir avec nos amis médecins, mais à mon avis, on a les moyens aujourd'hui de gérer les problèmes de coagulation du sang, des un bébé hémophile, etc. On a des moyens.
Déjà, il y a des prises de sang à faire.
Ouais, en plus, aujourd'hui, on est hyper vigilants. Mais à l'époque, bah, tu peux pas le savoir à l'avance, tu fais pas de prise de sang, enfin, voilà, et puis il meurt, enfin, il a pas cicatrisé. Une catastrophe. Mais en tout cas, si c'est. Non seulement il y a une gemara sur ça, et que c'est pris dans Shulchan Aruch, etc., c'est que ça devait être un vrai cas, quoi. Enfin, des choses qui malheureusement devaient arriver.
Dans la Mila, il y a trois étapes, on peut pas vraiment faire.
Rien, tu fais rien, tu fais rien. Tu fais rien, tu prends pas le risque.
Du coup, pourquoi il est dispensé?
Donc, il est. Ah, Razak. Donc, ça, c'est encore une autre question. Là, on a compris qu'il est dispensé de la Brit Mila. Bien. Mais donc, maintenant, on essaie de comprendre la Braïta. La Braïta nous dit le harel ainsi que l'impur. Les deux sont dispensés de la mitzvah. Alors la Gemara pose la question. Bishlama tamé, il dit, je comprends, pour l'impur. Que tu me dises que l'impur est dispensé d'aller au Beth Amikdash? Ben, ça, je le sais. Dirti, parce qu'il y a un verset qui me dit, Uvata shama, vahavetem shama, olotechem bezifrechem. Kol she yeshno bevi'a, yeshno behava'a. Vechol she eno bevi'a, eno behava'a. Un enseignement très logique, très sympa. Il y a un verset comme ça qui donne la Torah. Le verset nous dit « Ou va ta shama, tu viendras là-bas » en parlant du Beth Amikdash, donc c'est la mitzvah d'aller au Beth Amikdash. « Tu viendras là-bas, va vetem shama, et tu amèneras là-bas des sacrifices. » Ok, c'est la mitzvah d'aller au Beth Amikdash. Tu vois, au Beth Amikdash, tu amènes des sacrifices. Bien. Quelle est la dracha qui est faite? Il nous dit « Regarde, il y a deux verbes qui se ressemblent. » C'est quoi les deux verbes? C'est « bi'a » et « hava'a ». « Bi'a » c'est venir, « hava'a » c'est amener. Ok? Donc, il nous dit, regarde, puisque la Torah a mis les deux verbes dans le même pasouk, en nous disant « tu viendras là-bas et tu amèneras un korban », donc c'est de là que l'on apprend que celui qui amène le korban, c'est lui qui peut venir. Mais que celui qui ne peut pas amener de korban, il ne peut pas venir non plus. Or, qui c'est qui ne peut pas amener de korban? C'est celui qui est impur. Celui qui est impur, il ne peut pas les amener de korban. Donc du coup, si tu veux impur et que tu ne peux pas amener de korban, tu ne peux pas venir. Et inversement, celui qui est impur, il ne peut pas venir au Beth Amikdash. Donc si tu ne peux pas venir au Beth Amikdash, tu n'amènes pas de korban. Ok? C'est comme ça que ça fonctionne, la logique. Donc du coup, celui qui est impur, non seulement il n'amène pas de korban, et en plus, il ne vient pas au Beth Amikdash. Ça, c'est celui qui est impur. Donc il nous dit « Bishlama ». Ça, je le comprends bien. Ça rentre bien dans le pasouk. Ça va, c'est assez logique. Ah, mani. Pardon? Ah, pardon. Et là, arel minalan. Mais du coup, la Gemara pose la question, dit, ok, ça c'est pour l'impur. Mais l'incirconcis, d'où est-ce que l'on sait que l'incirconcis aussi, il ne doit pas aller au Beth Amikdash? D'où est-ce qu'on le sait? Ah, mani. Alors, il nous dit, regarde. Qui nous a donné cet enseignement-là? Rabbi Akivahi. C'est Rabbi Akiva. Et alors, qu'est-ce qu'il a, Rabbi Akiva? Dim Rabbe Leharel Ketame. Rabbi Akiva, par ailleurs, Rabbi Akiva, il met l'incirconcis au même niveau que l'impur. D'où est-ce qu'on voit ça? Kedetania, comme on l'apprend dans une autre braïta, Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva nous dit, Ish, les rabotes étaient Harel. C'est une dracha sèche. C'est quoi la dracha sèche? C'est qu'il y a un verset dans le livre de Vaïkra qu'on va entamer cette semaine, enfin Shabbat prochain si tu veux. On nous dit Ish misera Aaron veutsarua ozav kodashim lo yochal. Il est écrit là-bas. Ish, un homme qui n'est pas de la descendance d'Aaron ou qui est lépreux ou qui a un écoulement qui le rend impur, il n'a pas le droit de consommer les corbanotes. Bon, okay, c'est un verset de la Torah, hein, de Vaïkra, qui nous dit quoi, finalement? Que quelqu'un qui est impur, il ne peut pas manger des corbanotes. Que tu sois impur à cause de la lèpre ou bien d'un écoulement, tu es impur, d'accord? Tu peux pas manger un corban. Ok, mais Rabbi Akiva nous dit, il est bizarre ce verset. Pourquoi il y a écrit deux fois le mot ish? Réponse de Rabbi Akiva, le premier ish, C'est pour l'introduction pour comprendre le verset. Un homme qui est impur. Ok. Mais Rabbi Akiva nous dit, la répétition du mot « ish », pourquoi il y a deux fois « ish »,« ish »,« ish », ça vient inclure quelqu'un. Qui est-ce que je viens inclure ? Le harel, l'incirconcis. Et donc, dracha sèche. Ça veut dire que Rabbi Akiva nous dit, il ne dit pas pourquoi il le dit, mais il le dit comme ça. Il dit, le harel, c'est lui qui est inclus dans le verset, qui compare, enfin, et qui nous permet de le comparer à quelqu'un qui est impur. Donc, pour Rabbi Akiva, l'incirconcis et l'impur, il est au même niveau.
Pourtant, ish, on a plus d'axe le Metzora et le Keri.
Sur les drachotes, il y a un principe qui nous dit, sur une drachate, tu peux opposer du jour à la nuit toutes les oppositions que tu veux. Si c'est lui sa tradition d'interprétation du pasouk, c'est son interprétation du pasouk. Donc lui, il te dit, le pasouk, les deux ish, c'est une fois pour le ish, l'introduction de la phrase, et le deuxième, c'est le harel.
C'est un clan pour lui.
Pour lui, c'est ça, c'est sa dracha officielle de Rabbi Akiva. Donc du coup, le harel a le même statut que le tamé. Donc de la même façon que le tamé, il ne va pas au Beth Amikdash, le harel ne va pas au Beth Amikdash.
Mais pour lui, le premier ish, c'est un tamé ou pas pour le premier ish ?
De quoi, de quoi ?
Le ish, le premier ish, c'est un titre ou c'est un tamé pour lui ?
Non, c'est le tamé.
C'est tamé. Ah,
bien sûr. Le ish, c'est le tamé parce que c'est le sens du verset. Et comme il y a un ish en trop, il te dit c'est qui ce ish en trop ? Moi, dit Rabbi Akiva, j'ai une tradition que le ish en trop, c'est le harel. D'accord ? Dracha sèche. Hein ? Ouais, c'est clair, c'est clair. C'est assez sévère, hein ? Il nous donne ici, dans le commentaire que j'ai ici, il nous dit « Nir'e chez Harel asur gam ken ikanes la migdash ». C'est pas simplement que le Harel n'a pas le droit, parce qu'on peut se dire « Attends, oh, mais le pasouk là de référence, c'est la consommation des corbanotes. Donc tu peux te contenter de me dire que le Harel, il mange pas les corbanotes. » Il nous dit « Non, c'est plus que ça. » En fait, ce qu'on doit comprendre de cet enseignement, c'est que non seulement il mange pas les corbanotes, mais il ne met même pas les pieds au Beth Amikdash. Et là, c'est pas facultatif, c'est une interdiction du coup.
Bah, il risquait la mort surtout.
Pourquoi ?
Quand on disait quelqu'un qui était tamé qui rentre.
Ah oui, d'accord. D'accord, donc c'est interdit, c'est pas juste si tu veux, tu peux y aller quand même. Là, dans ce cas-là, de la même façon que l'impur, il met pas les pieds au Beth Amikdash, l'incirconcis, il met pas les pieds au Beth Amikdash.
Est-ce qu'on peut déduire que comme l'incirconcis est comparé à le même statut que, que l'impur, est-ce qu'on peut déduire. Qu'il est juif. Parce qu'en fait, que l'incirconcis est juif. Est considéré à un statut de juif. Parce que pour être qualifié d'impur, il faut être juif.
Mais il est juif.
Mais il est juif.
Ouais, mais on ne le dit nulle part.
Bah si, enfin, on ne l'a pas écrit. À part Rashi qui te dit Israël, Rashi t'a dit c'est un juif.
Ouais, mais
c'est évident. Parce que si tu dis qu'il n'est pas juif.
Dans ce
cas-là, c'est il n'a pas la mizadriya.
Si tu me dis qu'il n'est pas juif, c'est sûr qu'il ne doit pas aller au Beth Amikdash. Tu vois ce que je veux dire ? Qu'il n'a pas d'obligation d'aller au Beth Amikdash pour être fait de pèlerinage.
Oui, mais alors ce qui m'ennuie, c'est la nécessité de le mettre pour dire qu'il n'y a pas le droit de le comparer à l'impur.
C'est pas une nécessité. C'est la braïta qui est comme ça. C'est pas qu'on a une nécessité de dire qu'il est comme l'impur. C'est qu'il y a une braïta comme ça qui nous dit le harel et le tamé, ils ont le même statut. C'est la braïta qui est comme ça. C'est pas qu'on a voulu le faire. C'est qu'on a un enseignement comme ça. Et d'où vient cet enseignement ? De Rabbi Akiva. Or, c'est même Rabbi Akiva qui nous dit que le tamé et le harel, ils sont au même statut dans un autre enseignement. D'accord ? Donc Rabbi Akiva, en fait, il est cohérent avec lui-même. De la même façon que pour lui, le harel, il est comme le tamé par rapport à la consommation des corbanotes. Eh bien, il nous dit, de la même façon, il est dans la même catégorie, dans le fait d'aller au Beth Amikdash avec les trois fêtes de pèlerinage.
Comparaison amenée par la Braïta,
qu'il est nécessairement juif. Que le harel, il est tamé. Ouais. Non, le harel n'est pas pour autant tamé, mais il a le même statut que le tamé.
Même niveau.
Exactement. C'est pas qu'il est tamé. Ouais. On ne dit pas que le harel, il est tamé. Ouais. Le harel, il est comme le tamé. Exactement. Il est comme le tamé, ça veut dire par rapport
au.
Sur ce point-là. Sur ce point-là.
Les autres mitzvot, c'est bon.
D'accord. Oui. De toute façon, quelqu'un qui est tamé, il fait les autres mitzvot. Très bien. Exactement. D'accord. Donc ça veut dire il extrapole largement en disant que non seulement il peut pas manger les corbanotes, mais du coup il peut pas non plus venir amener des corbanotes. En fait, il peut même pas les amener ces corbanotes.
Comment
Parce que c'est, je vous rappelle que c'est ça, hein, la mitzvah de Reiya, c'est de venir au Beth Amikdash pour amener des korbanot. C'est pas je venir pour se balader, c'est venir amener des korbanot.
Mais ce qu'on a dit aussi jusqu'à présent, c'est que le fait de leur permettre de ne pas y aller, c'était plus pour les avantager. Pour leur...
Oui, jusqu'à présent, oui. Mais là, le harel, du coup, c'est complètement différent. Razak, là, du coup, ça devient une interdiction. C'est comme le tamé. Le tamé, c'est pas pour le favoriser, c'est parce qu'il n'a pas le droit. Là, c'est la kedusha du lieu qui renvoie certaines personnes. La kedusha du lieu empêche le tamé de venir et elle empêche aussi le harel de venir. Ah, c'est un scandale, qu'est-ce qu'il a fait le harel? D'après Rabbi Akiva, le harel, il est comme un tamé. C'est l'opinion de Rabbi Akiva en réalité. Cette braïta, c'est Rabbi Akiva.
Pourtant, on aurait pu penser que le.
Ils n'ont pas tout à fait le même statut parce que le tamé peut devenir tahor à un moment.
Razak, alors que le harel, non. Certes, c'est pour ça que j'ai dit. C'est pas qu'on n'est pas en train de dire que le harel, il est tamé. Ils ne sont pas exactement pareils, mais là. Dans cette halakha-là, ils sont concernés de la même façon.
Le problème du harel, c'est un cas de force majeure, ça, ce qui était pour lui.
Oui, c'est ça. Alors, c'est Razak, c'est ça le scoop. Razak, c'est ça le scoop. C'est qu'on Rachid lui-même nous a dit, mais attends, mais il n'y est pour rien pour ce monsieur-là. Il avait le droit de ne pas la faire, sa Brit Mila. Ouais, mais malgré tout. Malgré tout, ça veut dire que ton état te rattrape. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas que tu as une mauvaise kavana, que tu n'es pas un homme bien et que tu n'es pas religieux. C'est que tu as un statut. Ton statut te bloque.
Comme le Cohen avec des défauts.
Par exemple. Ah, qu'est-ce qu'il a fait de mal, ce Cohen? Rien. C'est comme ça. C'est un statut qui le bloque. Oui.
Bah, c'est pas particulier.
Non, mais la différence des autres, c'est ce que tu disais. C'est que les autres, ils avaient le droit d'y aller quand même. Tu vois ce que je veux dire? Ils avaient le droit d'y aller.
Il y a une question.
Ouais, j'ai vu. C'est facultatif. Dis-moi.
Comment est-ce qu'ils vont expier leur faute, du coup?
Un chalier, hein.
Ouais, pour l'amener des corbanotes, il a envoyé par quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Et en plus, je te rappelle que les trois faits de pèlerinage, c'était pas du tout pour la réparation des fautes.
Non. Lui, il peut jamais aller au pèlerinage.
Lui, il peut pas y aller, mais il peut les envoyer par quelqu'un d'autre.
Un chalier, ouais. Ça,
il envoie des corbanotes par quelqu'un d'autre. C'est lui qui peut pas mettre les pieds.
Comme Poutine, il n'est pas obligé d'aller à Ouman, il va.
On continue. Tanoura Banan. D'ailleurs, on a une braïta qui va un peu dans ce sens-là, une autre braïta, où on nous dit « tamé, patour minariya », que le tamé, l'impur, il est dispensé de la misva de reiya. « Dirti, ou vata shama, vavetem shama », c'est le même pasouk qui est utilisé pour apprendre la même chose. « Kol she yeshno bevia, yeshno beava », tout celui qui peut venir, il peut amener. « Vechol she no bevia, eno beava », et celui qui ne peut pas venir, ne peut pas amener, et dans les deux sens aussi. Bien. La braïta continue. Rabbi Yochanan ben Dahavai, Omer, Mishum Rabbi Yehuda. Souma, Be'achat Me'enav, Patour Minareiya. Il nous dit, celui qui est borgne, il est aussi dispensé de la mitzvah d'aller au Beth Amikdash, pour les trois faits de pèlerinage. Attention, s'il veut y aller quand même, il peut y aller. Mais là, par contre, c'est pour lui faciliter la vie.
Ça, on l'a eu, ça.
Oui, exact. C'est pour lui faciliter la vie. Pour pas qu'il se remonte à traverser tout Israël alors qu'il a qu'un seul œil, il voit pas bien, il va se cogner dans les trucs, etc. Il est peut-être un peu souffrant. Donc du coup, on lui dit, toi, t'es dispensé de l'obligation. Si t'as envie, tu viens, mais t'es dispensé de l'obligation. Et là, par contre, il nous rajoute un truc qu'on n'avait pas vu. Chez Nehemar, d'où est-ce qu'on l'apprend cette idée-là? Que celui qui est borgne, il ne vient pas au Beth Amikdash, en tout cas, il n'est pas obligé de venir au Beth Amikdash pour être fait de pèlerinage. C'est cette fameuse dracha, Yir'e, Yira'e. Kederer Shebalir Hot, Karvuba Lera'ot. Ma Balir Hot Bishterenav, Aflira'ot Bishterenav. Et là, c'est un anthropomorphisme qui est incroyable, qui nous dit, tu sais quoi? Il faut que quand tu viennes au Beth Amikdash, il faut que tu ressembles à Dieu. Ouais? C'est la braïta, elle est là. La braïta officielle, c'est celle-là. De la même façon qu'Akadosh Baruch Hu, il te voit avec tous ses deux yeux. Alors, bien évidemment, Dieu, il n'a pas deux yeux, mais il te voit avec une vision complète, on va dire, pleine et complète. Alors, toi, qui viens te faire voir par Dieu, il faut que tu viennes dans les mêmes conditions que celui qui te voit. Donc, du coup, avec tes deux yeux. Si tu n'as qu'un seul œil, tu es dispensé d'amis.
On a un peu aussi déduire avec les deux termes, Ria
et. Ben, c'est ça. Ira, Ira-e, Ira-e, Ira-e. Voir, se faire voir. Ok, c'est effectivement une dracha qu'on avait déjà développée. Très bien. Et maintenant, on va rentrer dans un passage de Gemara qui est particulièrement angoissant.
C'est Boed Gadol ou quoi?
Non, pas à ce niveau-là.
Je parlais d'incirconcis, de tamé, d'aveugle.
Non, là, pour l'instant, c'était soft. Ouais. Là, ici, on va avoir des passages. Oui, question.
Tout à l'heure. Pour...
Ouais, vas-y.
Tu es dispensé, mais tu peux venir.
Oui.
Mais là, ce que je comprends, c'est que tu es dispensé, mais tu peux venir, mais ça serait bien si tu ne viens pas.
Dans lequel? Le borgne?
Oui.
Non, si tu as envie, tu viens.
D'accord, par rapport à l'histoire où tu dois venir comme...
Tu viens pas en tant qu'obligation formelle, D'accord. Exactement. T'es pas tour. T'es dispensé. Si tu veux quand même t'embêter, qu'est-ce que je te dise ? À venir pendant 2 semaines traverser Israël à pied, à dos d'âne, etc. Bien, c'est dommage, ça t'embête en... alors que nous, on t'a dispensé. D'accord ? Tu peux venir si t'as envie.
D'accord. On ne dit pas ta voix là, bracha.
Alors, Khazak, ça c'est de manière générale. On dit quelqu'un qui s'impose de faire quelque chose sur lequel il est dispensé, quelque part, il n'est pas net. t'es dispensé, reste tranquille. D'accord ?
De toute façon, Gadol a Metsouvé, Michel a Metsouvé.
Exactement, c'est ça, ça vient sur ce principe-là. D'accord ? Okay. De faire quelque chose dont tu n'as pas un ordre formel, c'est quelque part peut-être de la stupidité. Okay. Ce n'est pas forcément un élan positif.
Alors, faut un coup vegan. Hein.
Bon, allez. Pourquoi ? Non, parce qu'il y en a qui peuvent l'interpréter. Malgré ça, tu as vu, il a fait l'effet.
Exact, alors qu'en fait, tu as moins de mérite que celui qui est obligé. Parce que celui qui vient sans avoir d'obligation, il le fait de son bon cœur. Il n'a pas de Yetzer Hara. Quand tu fais quelque chose sur lequel tu n'es pas obligé, tu n'as aucun Yetzer Hara. Parce que tu es porté par, ta, par ton bien-être. Mais quand tu as une obligation, tu as un Yetzer Hara. Nécessairement. Et donc, du coup, quand tu le vas. T'as un plus grand mérite. Et donc là, maintenant, on arrive effectivement à des psukim et des drachotes qui sont particulièrement tristes. Et voici la première, elles vont s'enchaîner, vous allez voir les unes aux autres. Ravuna. On nous raconte l'histoire de Ravuna, qui matait les haïkra. Il étudiait la Torah, comme tout le monde, comme nous tous. Mais il avait un truc, c'est qu'à chaque fois qu'il arrivait sur un même verset, il pleurait. À chaque fois qu'il tombait sur ce verset, il pleurait. Quel est le verset ? Bah justement... Yir'e, yira'e, bahé. Quand il voyait donc ce passouk là où on dit qu'il faut venir se faire voir par Akadosh Baruch Hu, etc., il pleurait. Amar, pourquoi il pleurait ? Il disait, Eved, Sherabo metzapelo liroto, yitrachek mimenu, dirtiv, kitavou lera'ot panay, mi bikesh zot mi yetrem remos tzachat serai. Le verset est le suivant, enfin le raisonnement est le suivant, il se dit, te rends compte ? Dieu, il me demande de venir le voir, et il m'empêche de le faire. C'est terrible, c'est dramatique. Akadosh Baruch Hu, il a retiré son Beth Amikdash. Il a fait en sorte que le Beth Amikdash soit détruit. Et pourtant, dans la Torah, il m'a donné l'ordre à moi, son serviteur, de venir 3 fois par an au minimum au Beth Amikdash. Donc, Hachem m'envoie une invitation, et en fait, il me retire la salle de rencontre. Donc, il dit, il y a de quoi pleurer. C'est terrible, je ne peux pas réaliser la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Lui-même, qui veut que je vienne le voir, il a fait en sorte que je ne puisse pas le voir.
Il y a des substituts aujourd'hui, c'est la
tefila. Ouais, mais...
C'est pas équivalent, mais...
Ah ouais. Ah ouais, c'est triste. Hein. Le substitut, il est triste. Hein. Ouais. On n'est pas... Ça n'a rien à voir, le Beth Amikdash. Ouais. Non, mais tu nous dis, si on était vraiment conscient de ce qu'on a perdu avec le Beth Amikdash, on serait tout le temps en train de pleurer. On est loin de ça. C'est vrai, on se dit, ah ben ça va... Finalement, ça va. D'accord, on a l'équivalent encore. On a la tefila, on a nos synagogues, on a nos petites communautés, on a nos petits trucs sympathiques. D'accord. En fait, on dit, mais t'es à côté de la plaque. En fait, tu devrais te lamenter parce que ça n'a rien à voir avec l'original. Mais bon, on se contente de ce qu'on a. Et on dit pareil sur le Beth Amikdash, on dit pareil sur la terre d'Israël, on dit tout ça. Donc du coup, il dit, te rends compte, Hachem, il m'a dit de venir. Il m'a dit, viens. Moi, je veux venir et je peux plus. Donc, du coup, il pleurait à chaque fois qu'il lisait ce verset.
Il était pas bon.
Non. Dirtiv, kita vohu lera ot panai, mi bikesh zot mi yetrem remos ratzerai. Comme dit ce fameux verset de Ishayad qu'on avait cité la semaine dernière, d'accord, qui nous dit lorsque vous viendrez me voir, qui vous a demandé de fouler du pied ma cour ? D'accord, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que d'un côté, je vous dis de me dire me voir. Mais une fois que vous êtes là, je vous dis, hey, qui vous a demandé de venir ici ? Allez, oust. C'est exactement ça. Ça ressemble un peu à l'histoire de Soukhot. Vous savez, quand on dit qu'on a de la pluie à Soukhot, c'est comme si à Kadosh Baruch Hu, il nous chassait de son
entrée. Pas dans le reste du monde.
Ah ouais, t'as vu ça ?
Non.
T'as lu cette précision ?
Non, je pose la question.
J'avais jamais lu cette.
Non, mais il y a forcément des pays.
Oui, forcément. Ouais, forcément. Mais j'avais pas vu explicite le.
Moi, j'avais cru comprendre que
c'était. Ah ouais, tu l'as lu quelque part ?
Je l'ai entendu.
D'accord, possible.
Je l'ai entendu.
Possible. D'accord, mais en tout cas, sur l'idée, on comprend quoi. Ça veut dire qu'Hachem, il te demande de venir et il te crache à la figure quand t'arrives. D'accord, donc là, ici, il te demande de venir au Beth Amikdash et en fait, il te l'a enlevé. D'accord, donc il dit je pleure, je me lamente. Ravuna, le même Ravuna. Il devait être sensible, Ravuna, qui matait les haïkra lorsqu'il arrivait à un autre verset. Bahé, il pleurait aussi. Quel est le verset ? Vezavarta shelamim, veachalta sham, il ressemble beaucoup à la même idée qu'on vient de développer. Il nous dit, vous viendrez pour offrir des korbanot, que l'on appelle des shelamim, et tu les mangeras là-bas, au Beth Amikdash, à Jérusalem. Et pareil, le raisonnement, evet sherabo metzapele chole al shulchano, itrachek mimenu, tu te rends compte. Akadosh Baruch Hu, il me donne la possibilité de venir faire des korbanot. Et quand on fait un korban, on nous dit, c'est comme si je mangeais à la table d'Akadosh Baruch Hu. Donc Hachem, il me dit, je t'invite à ma table, et il nous détruit Beth Amikdash. D'accord, donc du coup, il m'invite, mais en fait, il retire la table. Il y a de quoi pleurer. Et d'où est-ce qu'on sait qu'il nous a retiré notre table? Eh bien, on nous dit, Lamali rov zifrechem yomar Hachem, verset emblématique dans Ishaïa, où Akadosh Baruch Hu nous dit, à quoi me servent la multitude de vos sacrifices? Vous pensez que j'en ai besoin? Vous pensez que vous pouvez m'acheter avec ça juste parce que vous allez faire des sacrifices, que ça va pardonner vos fautes? Bien évidemment que non, ça ne marche pas comme ça. Il faut une véritable teshuva, un comportement. Donc du coup, vous me faites des tonnes de sacrifices, mais en fait, j'en veux pas, donc je retire ma table, j'enlève le Beth Amikdash. Donc il pleurait, là encore. Rabbi Elazar, maintenant c'est Rabbi Elazar, qui m'a télé à Ikra lorsqu'il arrivait à ce verset, Bahé, lui aussi il pleurait. Quel est le verset qui lui faisait pleurer à lui? Velo yachlu echav lanot oto kinivhalu mi panav. Alors là, c'est carrément une autre histoire, exactement. Rappelez-vous l'histoire avec Yosef. L'histoire avec Yosef. Lorsque Yosef finalement se révèle à ses frères, après plus de 20 ans de séparation, lorsqu'il se révèle à eux en disant tout simplement Ani Yosef, que répondent les frères? En fait, ils répondent rien. Lo yachlu echav lanot oto. Il était incapable de répondre quoi que ce soit. Pourquoi? Qu'il y va halou mi panav. Ils étaient terrifiés. D'accord? Dans tous les sens du terme. D'accord? Ils étaient bougés.
Ils le croyaient mort, surtout.
Enfin, ils pensaient qu'ils s'en étaient débarrassés bien. D'accord? Donc, pour eux, c'est, ils sont cloués. Et alors, pourquoi ils pleurent? Il n'y a pas de quoi pleurer. C'est quoi le truc? Il répond comme ça. Écoutez ça. Matochacha shel basar vadam kar. Tochacha shel akadosh baruch hu alachat kama vechama. Il pleure et en disant, tu te rends compte, si déjà, quand un homme te fait une réprimande, c'est Yosef, c'est un homme, quand un homme te fait une réprimande, tu peux être cloué sur place et même pas être capable de répondre quoi que ce soit. T'imagines après 120 ans, quand Hachem il va te faire des réprimandes sur ta vie et qu'il va te dire, pourquoi t'as fait ça ce jour-là, cette heure-ci? Pourquoi t'as fait ça et ça et ça et ça et ça et ça? T'imagines, qu'est-ce qu'on va lui répondre? Si déjà, à un homme, on n'a pas su répondre. Alors quand un Kadosh Baruch Hu, il va t'envoyer la vérité à ta figure, d'accord? T'imagines dans quel état on va être? Donc il y a de quoi pleurer.
Bah, c'était pas des bonhommes quand même. Ouais.
D'accord, il y a de quoi pleurer.
On a un autre raisonnement qui rejoint un peu ça. Souvent, on a peur de fauter devant les gens. On se cache.
Ouais. Non, c'est autre chose là.
Non, c'est autre chose.
Là, c'est autre chose. Là, c'est vraiment face à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui te fait une réprimande. Sur quelque chose de vrai en plus. T'as fait une faute et t'as Yosef qui est là, il te dit oh! Tu te rends compte ce que tu as fait? Bah, ça c'est une réprimande claire. Et ben après 120 ans, Akadosh Baruch Hu, il nous fera exactement la même chose. Et donc du coup, comment je vais faire pour justifier toutes mes fautes? Et toutes mes erreurs, mes manquements, etc. Comment je vais faire pour justifier? Si eux déjà, ils n'ont pas été capables de se justifier. Alors sur ça, nos commentateurs, les Rishonim, ils nous disent il est où le reproche que fait Yosef à ses frères?
Il n'y a pas de reproche.
Il n'y a pas de reproche. Dafka, il n'y a pas de reproche. Il n'y a pas de reproche. Que tu me dises que tu es angoissé après 120 ans quand Hachem, il va te faire des reproches, ok. Mais ce n'est pas ça qu'il y a écrit. Il y a écrit que si déjà devant les reproches faits par un homme, on ne sait pas quoi répondre, en nous parlant de Yosef et ses frères. Mais Yosef, il n'a pas fait de reproche à ses frères.
Non, c'est la situation.
Il a dit Ani Yosef.
C'est la situation qui est un reproche en elle-même.
Ah, Khazak. Alors, en fait, il y a deux réponses. La première réponse est de dire « Non, 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 il y a un reproche. » C'est quoi le reproche? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Je suis Yosef, votre frère. » C'est quoi la suite?
Est-ce que mon père est vivant?
Ouais.
Est-ce que mon père est vivant?
Donc c'est pas
un reproche. Mais si! Bien évidemment! Écoutez, c'est quoi le reproche?
Il triche.
Écoutez, c'est quoi le reproche? Écoutez ça. Vous me dites... Depuis que vous êtes arrivés en Égypte, vous, là, les messieurs devant moi, vous n'arrêtez pas de me dire, si on ne ramène pas Binyamin à la maison, notre père, il va mourir, il faut que tu nous le rendes, etc. Ah, et moi, je suis Yosef. Et quand vous m'avez vendu, vous n'êtes pas posé la question, est-ce que mon père va rester vivant, est-ce qu'il va mourir à cause de cela? Donc, quand il dit, est-ce que mon père est vivant, En fait, c'est oui. Bien évidemment que c'est un reproche. En disant, mais attends, mais vous n'êtes pas cohérent avec vous-même. Vous n'êtes pas cohérent avec vous-même. L'argument que vous utilisez pour que je vous libère, Binyamin, cet argument-là, vous ne l'avez pas tenu quand c'était moi. Pourquoi vous ne l'avez pas tenu? Vous n'êtes pas cohérent. Et nos commentateurs nous disent, les plus gros reproches qu'Hachem nous fera, c'est sur nos manques de cohérence. Ce n'est pas simplement sur nos fautes. C'est sur nos manques de cohérence. Du genre, du genre. Du genre. Il y a de quoi pleurer maintenant ou pas? Du genre. Ah, tu peux pas dépenser un peu pour faire une mitzvah?
Qu'est-ce que j'apprends?
Eh, ah ouais? Et pourtant, toutes les vacances, t'es parti. Dans ta vie. Ouais, tu t'es pas privé d'acheter 3 voitures et une maison secondaire, etc. Et cet argent-là, tu pouvais pas le mettre dans une mitzvah? T'es sûr que t'es cohérent? Etc, etc. Ça veut dire que là, ici, le reproche, c'est la cohérence interne de l'individu. Et ça, on n'a pas de quoi répondre. Que tu dis, pourquoi tu n'as pas fait Shabbat? Tu dis, ah, je suis en rouge, j'ai pas rara, j'ai pas mangé cachère, j'ai pas de truc. Ok, bien sûr interdit, mais ok. Mais quand tu n'es pas cohérent, ouais. Là, qu'est-ce que tu veux dire?
Mais par contre, un peu plus loin dans la parasha, elle dit, bon, en fait, vous êtes pour rien, c'est Hachem qui a...
Mais c'est ça la force du reproche. C'est ça la force du reproche, c'est que je te l'ai quand même envoyé à la figure le truc. Je te l'ai renvoyé à la figure et c'est bien ce que dit la Gemara ici.
Je vais peut-être dire un truc qui
est sacrilège. Calme-toi.
Mais justement, qu'est-ce qu'il espérait à Kodesh Baruch Hu au bout des 40 jours, quoi, qu'on tienne le coup?
De quoi tu parles?
Quand ils ont fait le veau d'or, ils ont craqué, ils ont vu qu'à 40 jours, Moshe redescendait pas. Après tout ce qu'ils avaient subi, la cohérence d'Akadosh Baruch Hu d'espérer que le peuple reste entre guillemets nickel.
Bah c'est quand même le.
Oui.
C'est quand même le but.
C'est pas ce que je lui fais, mais.
Non, bien sûr. Mais c'est quand même le. C'est quand même le but. Qu'on soit capable de rester droit, même dans les moments où justement il se arrive des choses qui sont imprévues.
Je sais pas, avec tout ce qu'ils avaient déjà subi.
Moi, ouais.
J'ai jamais trouvé ça.
Ouais.
Étonnant,
bah Moshe il va jouer là-dessus. Moshe il jouera là-dessus. Hein. Moshe, il y a un métrage très dur où Moshe se tourne vers Akadosh Baruch Hu en lui disant hey, s'ils ont fait le veau d'or, c'est de ta faute. C'est toi qui leur as donné autant d'argent dans les mains. S'ils n'avaient pas eu autant d'or en sortant d'Égypte, ils n'auraient pas fait le veau d'or. Donc c'est de ta faute. C'est pas mal. D'accord, la comparaison de l'enseignement, elle est terrible. Hein.
Je le prendrai en disant
c'est comme si tu prends un jeune homme de 20 ans. Tu le mets beau, parfumé, coiffé, avec une bourse d'argent dans les mains, et que tu le mets dans un quartier avec des prostituées, comment tu veux qu'il tienne, qu'il tienne? Il ne tiendra pas. C'est toi qui l'as mis dans ces conditions, c'est toi le père qui l'a mis comme ça. Moshe, il dit ça à Kadosh Baruch Hu, il dit, tu te rends compte? Tu nous as laissés, seuls. Tu les as laissés, seuls, avec de l'argent dans les mains. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? C'est sûr qu'ils allaient chuter. Tu te rends compte la comparaison? Mais dans la bouche du Midrash, ça s'entend. Donc, du coup, ça, c'est la première réponse, c'est la tienne. D'accord? C'est de dire, c'est un manque de cohérence, cohérence interne. La deuxième réponse, elle est encore plus terrible. À la question de savoir, mais il est où le reproche? Il n'a rien dit. Il est où le reproche? Réponse, Ani Yosef, ça suffit pour être un reproche. Je suis Yosef. On nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, après 120 ans, ouais. Il va pas nous sortir ce qu'on pense, nous, quand, depuis qu'on est enfant, vous savez, les dossiers avec les Averot, etc. En fait, Hachem, tout simplement, il va dire Ani Hachem. Ça veut dire, il nous met face à la vérité. Et du coup, nous tout seuls. Une fois qu'il va nous dire Ani Hachem, nous tout seuls, on
ça,
va se dire
hop, on révéler tous les trucs qu'on a
Chazak. Nous tout seuls, on va dire hop, purée, j'ai fait ça. Comment je peux tenir ça alors que maintenant je suis face à la vérité? C'est ça le reproche en fait, c'est Ani Yosef. Ça suffit. À mes yeux, qui entend Ani Yosef, donc aux yeux des frères, c'est le reproche le plus dramatique.
Il y a aussi le fait quand il dit Ani Yosef au moment où il dit il est quand même vice-roi d'Égypte.
Ouais.
Et il leur avait dit vous vous prosternerez.
Ah oui, bien sûr. Donc c'est bien une réalisation de.
Vous voyez bien, j'avais raison. C'était pas dans un but malsain, mais j'avais raison.
On rajoute encore un petit enseignement. Rabbi El-Hazar, cette fois-ci, Al-Mate le Haïkra, lorsqu'il arrivait à ce verset, Baché, il pleurait. Alors, juste pour l'entamer, l'enseignement, il est un peu long celui-là, mais juste pour l'entamer. D'où est-ce qu'on sait? Alors, quel est le verset qui le faisait pleurer? Écoutez celui-là. Va yomer Shmuel el Shaoul. Hop. Shmuel, dit à Shaoul, « Lama yergastani leharalot oti » Alors, attends. Shmuel dit à Shaoul, « Pourquoi est-ce que tu m'as dérangé pour me faire monter ici ?» Donc, Shaoul, c'est le roi, le premier roi d'Israël. Shmuel, c'est le prophète qui vit à l'époque du roi Shaoul. OK ? C'est lui qui l'a nommé.
C'est lui qui
lui retira sa royauté après. En tout cas, là ici, on nous dit, écoutez le truc, il y a un dialogue entre Shmuel, donc le prophète, et le roi Shaoul. Le prophète dit au roi, « Pourquoi est-ce que tu me déranges en me faisant monter ici ?» Suite de la Gemara, ça c'est la fin du verset. Et donc, imaginez, Rabbi Elazar, quand il lisait ce verset, il pleurait.
C'est-à-dire qu'il lui reproche de l'avoir nommé roi, c'est ça, non ?
Non, pas du tout. On va voir un truc complètement différent. Complètement. En tout cas, il y a un Rabbi Elazar qui lit ce verset dans le Tanakh. Et il dit, oh là 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 là, il se met à pleurer. Et il dit, Mashmuel atzadik aya mitiare minadin, anu alachat kama vechama. Si déjà le prophète Shmuel, il avait peur du jugement divin, alors nous, à combien plus forte raison ?
Surtout que Shmuel, il est aussi grand que Aaron et Moshe.
Alors, bien évidemment, il faut juste au moins qu'on comprenne de quoi il s'agit.
Oui,
parce que on voit pas.
Oui, le réveil quand il est mort.
Écoutez ça. Il y a un chapitre dans le Tanakh où on nous raconte la chose suivante. Shmuel était déjà mort. Samuel était déjà mort. Le prophète était déjà mort. Bon. Et alors, il y a un moment où, du coup, le roi, Shaoul, il était un peu désemparé. Parce que quand tu n'as plus de prophète, quand tu n'as plus de prophète emblématique comme Shmuel, et que tu es le roi, bah du coup, tu es un peu bancal, quoi. Il te manque les réponses que Dieu donne à travers le prophète. Il te les manque, puisque le prophète, il est mort. Et alors, Shaoul, il devait mener des combats difficiles. Et il a, Shal, Bachem, Uvikesh, Rizouk, Veadracha, Mimenu, il s'est tourné vers Hachem pour demander de l'aide, des réponses à ses questions, est-ce qu'il faut aller en guerre, pas aller en guerre, etc. Et le problème, c'est que l'ennemi en question, c'était les Philistins. Un ennemi viscéral du peuple d'Israël depuis tant et tant d'années. Ok. Kacher lo anaou Hachem, le problème, c'est que Hachem, il ne veut pas répondre à Shaoul. Parce que Shaoul, il était déjà en train de sortir du droit chemin. Hachem ne veut pas lui donner de réponse. Il a beau consulter le pectoral, les Ourim Vetoumim, etc. Hachem ne lui répond pas. Il dit, oh purée, il me faut une réponse. Je veux savoir si je dois y aller, pas y aller. Je veux une réponse. Et il se dit, je me rappelle qu'à l'époque de Shmuel, mon cher prophète, avec qui j'étais des fois en guerre, mais à l'époque de mon prophète, j'avais des réponses à mes questions. Mais maintenant, il est mort. Qu'est-ce que fait le roi Shaoul ? Il va consulter une nécromancienne, alors que, bien évidemment, c'est interdit par la Torah, et qu'il s'en était débarrassé, qu'il avait mis à mort toutes les nécromanciennes du pays.
Les nécromanciennes, c'est quoi ?
Ceux qui font parler des morts.
On discute avec les morts. Ah, d'accord.
D'accord, mais de manière vraie, hein, c'est pas les charlatans, vrai. Et on sait qu'il y a des forces qui existent. Du coup, il a été voir une nécromancienne qui se planquait parce qu'elle était tout le monde, ils avaient tué toutes les nécromanciennes. Il y en avait une qui était planquée, mais lui, c'est le roi, donc il sait exactement qui est, où est-ce qu'ils sont. Du coup, il va consulter la nécromancienne et il lui dit, fais-moi venir le prophète.
Et il lui dit pas qu'il est le roi. Hein.
Non. Ben non, t'imagines. Fais-moi venir le prophète Shaoul, j'ai une question à lui poser. Au début, il dit, oh, ça va pas, c'est interdit. non, pas bon plan, non. Il insiste, machin, elle le fait venir. Et là, le prophète dit au roi, pourquoi est-ce que tu m'embêtes ? Tu m'as dérangé pour venir ici. Et quand Rabbi Elazar lit ce verset, il pleure, en disant, et ça maintenant c'est ce qu'il faudra qu'on comprenne la prochaine fois, il dit, de là j'apprends que Shmuel, le prophète donc, a peur lorsqu'il passe en jugement. Il nous manque un truc, parce que là il ne passe pas en jugement a priori. Il est appelé, c'est tout. Il passe pas en jugement.
Mais quelle est la connexion avec le...
Avec nous, pourquoi il pleure ?
Non, avec Shaoul, avec la...
Qui ? Quoi ?
Shaoul, il fait appel à une...
Shaoul, il appelle une nécromancienne pour faire monter Shmuel. Donc Shmuel monte, donc elle y arrive, hein. Elle fait le boulot. Elle y arrive, Shmuel y vient. Shmuel vient, Mais le premier truc qu'il dit à Shaoul, il dit « Hop, purée, pourquoi tu m'as dérangé ici? Je suis mort de peur. » Mort de peur de quoi? Et Rabbi Elazar, il dit « Mort de peur du jugement. » Et quel jugement ici? Il n'y a pas de jugement. Qu'est-ce que tu, de quoi, pourquoi il a peur?
Peut-être de l'interdit de
Non, 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 c'est pas ce qu'il dit.
De repasser ton jugement quand tu vas remonter.
Ah, alors quoi? Sur quoi tu te refais juger?
Ça faisait combien de temps par rapport à sa mort?
Ah, bonne question, je sais pas.
Je rappelle que Hachem, justement, l'a fait descendre sur Terre, en fait, comme une punition, un petit peu.
Non.
Non, non, parce
que non, il faut chercher autre chose. Parce que Rabbi Elazar, il dit autre chose. Rabbi Elazar, il dit qu'il a eu peur du jugement. Pas le jugement de descendre, le jugement devant Kadosh Baruch Hu. D'accord? Et que nous, du coup, à plus forte raison, qu'on doit avoir peur du jugement. Comme Shmuel qui a eu peur du jugement. Mais quel jugement? Pourquoi Shmuel, il dit je suis parti me faire juger? Il n'est pas parti se faire juger, il est monté, il est descendu sur Terre. Il n'y a pas de jugement sur Terre.
Non, parce qu'il allait délivrer un message au roi.
Ouais, mais.
C'est pas pour, c'est non, pour ça qu'il allait se faire juger.
Non.
En révélant ce qu'il allait.
Non, il nous faudra autre chose. Razakoubar.